Place publique.
Bienvenue à Baselworld. Place publique vous propose une émission spéciale en direct du Salon mondial de l'horlogerie et de la bijouterie. C'est à Bâle, bien entendu. Une 102e édition spéciale à plus d'un titre. Bien que centenaire, la manifestation est en crise et a dû faire face à une hémorragie d'exposants. Mais vous l'entendrez dans un instant, son nouveau directeur, Michel Loris-Medikoff, en place depuis le mois de juillet, compte bien renverser la tendance et refaire de Baselworld un rendez-vous incontournable pour la branche et adapté aux attentes actuelles en matière de communication digitale. Nous ferons aussi réagir deux journalistes spécialistes des questions horlogères. Ils nous diront dans quelle mesure Baselworld peut remonter la pente, s'il s'en donne les moyens ou si le rendez-vous est condamné à disparaître sous sa forme actuelle. Enfin, deux exposants de marques implantées dans la région nous diront ce qui les incite à venir ici ou à rester fidèles à ce rendez-vous et ce que représente ce salon pour leurs affaires.
Jusqu'à 19h, place publique. Gabriel Devec.
Bonsoir à tous. Baselworld ouvre ses portes officiellement demain, mais accueille d'ores et déjà les journalistes. C'était ce mercredi, la journée de presse. La conférence de presse d'ailleurs s'est terminée tout à l'heure. Et cette 102e édition est placée sous le signe de la reconquête. En effet, le Salon mondial de l'horlogerie et de la joaillerie est déserté par de nombreux exposants, parmi lesquels les marques du groupe Swatch, on en a beaucoup parlé. Et cette année, la foire ne réunit qu'un peu plus de 500 exposants contre 1300 en 2017 ou encore 1900 en 2011. Mais le nouveau directeur général de la manifestation, Michel Loris-Medikoff, compte bien remonter la pente aux commandes de la foire depuis le mois de juillet. Il a d'entrée de jeu pris son bâton de pèlerin et souhaité rétablir la confiance avec les marques pour mieux répondre à leurs attentes. Michel Loris-Medikoff.
Il est très très important de se voir régulièrement, de comprendre les défis du marché. Je crois que nous tous, nous savons que le marché, il a fondamentalement changé. Et qu'en conséquence, Baselworld se devait également de changer. Je pense que le grand sujet qui préoccupe tous nos exposants indépendamment, que ce soit des horlogers ou des joailliers ou des marchands de pierre, c'est la digitalisation. C'est un sujet que vous pouvez lire pratiquement dans toutes les revues, que vous entendez dans tous les reportages relatifs à notre industrie. Et le sujet de la digitalisation, effectivement, on n'en avait pas fait assez dans le passé, on ne s'en est pas occupé. Et donc, voilà, tous ces retours, finalement, m'ont donné tout plein de réponses pour construire le futur de Baselworld.
Mais est-ce que la digitalisation, ce n'est pas la négation ou l'antithèse, justement, d'une foire commerciale, physique, où les acteurs se rencontrent ?
Je pense que c'est complémentaire. Je pense que c'est absolument complémentaire. Vous voyez, un bijou, d'une part, mais aussi les montres, c'est quelque chose qui se porte, qu'on doit toucher, qu'on doit sentir. On veut connaître le poids, on veut également pouvoir savoir de quelle qualité il s'agit, etc., etc. Donc le toucher, il reste néanmoins très, très important. Je pense que la digitalisation est un atout formidable dans la distribution d'une part, dans la communication également. Et c'est exactement là que je pense que Baselworld peut apporter une réponse en proposant justement une plateforme digitale pendant toute l'année et pas qu'une plateforme digitale de communication entre nous et nos visiteurs, nous et les exposants, mais que ce soit une plateforme qui fonctionne de manière multilatérale entre tous les acteurs de cette communauté. Et puis peut-être, ça il faut quand même le dire, donc ça c'est la communication digitale et qui se passe probablement pendant 51 semaines de l'année et pendant une seule semaine, tout ce monde qui communique de manière digitale pendant toute l'année se retrouvera de manière réelle à Bâle justement pour échanger des idées, pour se voir de manière beaucoup plus efficace. Monsieur Bivre avait dit après Baselworld 2018 que finalement la manière la plus efficace pour voir pendant une période déterminée tous les acteurs, que ce soit les journalistes, les blogueurs, les influenceurs, les producteurs et les marchands, les détaillants, c'était une foire. Et lui, à ce moment-là, il avait dit, s'il devait aller voir toutes ces personnes un peu partout sur la planète, ben, il ne pourrait pas le faire. Et donc, c'est à nous maintenant, et ça c'est le réel défi et le challenge qui est à la base du nouveau concept Baselworld 2020. Nous, on doit donner une réponse pour que Baselworld reste suffisamment important pour toute cette industrie.
Un défi de taille, hein, quand on voit les chiffres, avec cette année 500 exposants contre encore 1300 en 2017, on a l'impression, malgré la bonne volonté et les bonnes résolutions, qu'on assiste à une hémorragie sans fin.
Alors, bien sûr, je ne dirais pas le contraire. Il y a une baisse d'exposants. Maintenant, il faut quand même être fair play et puis aussi analyser la réduction des exposants. Il y en a quand même quelques-uns qui ont quitté Baselworld pour des raisons très diverses, qui ne sont pas uniquement dues au style de la manifestation ou de la qualité de la manifestation. Donc, il y a tout plein de raisons. Maintenant, effectivement, il y a une réduction. Si vous la comparez à l'année passée, où quand même une très très grande majorité des exposants avaient conclu Baselworld avec un commentaire très très positif et avec le constat d'avoir fait d'excellentes affaires, je crois que la qualité d'un salon ne se définit pas uniquement par le nombre de visiteurs, mais par la qualité des contacts qu'ils ont eus et bien sûr par les affaires qu'ils ont pu conclure pendant Baselworld. Je crois que ça c'est au centre de notre attention.
On parle d'hémorragie, mais on parle aussi de retour de certaines marques. Vous avez des promesses en ce sens, et même en 2019, cette année, il y a des revenants.
Oui, tout à fait. Alors, il y a surtout au niveau de la joaillerie, il y a quelques exposants importants d'Allemagne qui reviennent à Bâle. Et dans le secteur de l'horlogerie, il y a également quelques marques qui ont décidé de revenir à Bâle. Donc quelque part, nous sommes très très heureux de les recevoir à nouveau chez nous. Et puis ça montre peut-être aussi que justement ces marques qui reviennent apprécient une nouvelle façon de communiquer, une nouvelle façon d'accueillir les exposants à Bâle. Et ce n'est que le début.
Avec malgré tout une ombre au tableau, hein, la presse qui s'est largement fait l'écho des récentes déclarations du CEO de Swatch Group, Nick Hayek, qui affirme qu'il n'a pas besoin de Baselworld pour se présenter à ses détaillants, puis qui dans le même temps organise son propre salon aux mêmes dates à Zurich. Est-ce que ça, c'est pas pour vous un mauvais service qu'il vous rend ?
Non, pourquoi ? Je crois que Swatch a sa propre stratégie, et puis ça, je la respecte, et M. Hayek sait que je la respecte. Et voilà, eux, ils ont choisi de s'adresser à leurs détaillants d'une autre manière. Et Baselworld va se tenir exactement comme Baselworld s'est tenu l'année passée.
Mais ça montre paradoxalement finalement qu'un salon, c'est peut-être vous donner raison, hein, ça montre qu'il faut un salon même pour le Swatch Group.
Ben finalement oui, parce que vous savez, finalement le contact humain entre le producteur et la personne qui vend la montre, le contact humain entre la personne qui vend la montre et l'acheteur final, tout le monde en a besoin. Peut-être qu'on n'en a plus autant besoin que dans le passé, parce que justement, on a le moyen digital qui nous permet de communiquer beaucoup plus rapidement. Mais finalement, on constate, et vous le constatez à juste titre, qu'on a toujours besoin d'événements, que ce soit une foire ou un autre événement, pour justement avoir ce contact entre les deux parties. Et c'est ça qui rend justement cette situation si intéressante, que finalement c'est le défi que nous avons de rendre justement Baselworld suffisamment intéressante pour que tous les acteurs s'y retrouvent, chacun de sa manière. Il y en a un qui voudra juste exposer ses marques, ses montres, et il y en aura d'autres qui choisiront d'autres formats de communication, que ce soit un congrès, que ce soit une petite exposition. Chacun choisira son format et je pense que Baselworld peut être la plateforme où ces différents formats peuvent se réunir.
On va se projeter l'année prochaine, hein, parce qu'il y a une annonce importante que vous avez faite. Cette coordination avec l'autre salon concurrent, le Salon international de la haute horlogerie de Genève, votre salon et le SIHH, qui auront lieu à la même période en avril. Alors expliquez-nous en quelques mots en quoi c'est une bonne affaire pour votre salon.
Je crois que c'est pas qu'une bonne affaire pour Baselworld, mais c'est une bonne affaire in fine pour toute l'industrie suisse. Et ça, c'était la motivation que Fabienne Lupeau, la directrice du SIHH, et moi-même partagions lorsque je suis allé me présenter. C'est que in fine, les visiteurs, que ce soit des journalistes, des influenceurs ou des détaillants, ils viennent une seule fois en Suisse et ils peuvent faire deux salons. Je crois que ça, c'est le plus important. C'est beaucoup plus efficace pour tous les acteurs de l'industrie.
Place publique. Gabriel Devecq.
Place publique, toujours en direct de Baselworld, la foire horlogère qui ouvre officiellement demain. Aujourd'hui, c'était la journée presse et on est sur place pour cette émission. Cette fois, en présence de deux journalistes spécialisés dans les questions horlogères avec Valère Gogna, journaliste au Temps, en charge des questions qui touchent l'industrie horlogère, et Michel Janot, rédacteur en chef au bureau d'information de la presse horlogère. Michel Janot, on commence avec vous. Votre première impression en venant ici, hein, est-ce que ce salon vous rassure ou vous inquiète ?
Je crois qu'il rassure plutôt. L'an dernier, à la fin de l'édition 2018, on pouvait craindre qu'il n'y ait peut-être même plus de salon du tout. Donc, on est là aujourd'hui. C'est un salon clairement en convalescence. Il y a encore beaucoup à faire. Il n'est pas sauvé, mais on peut être plutôt optimiste.
Valère Gogna, un salon en crise ou un salon résilient ?
Un salon qui pose beaucoup de questions, j'ai l'impression, plus qu'il ne donne de réponses. On sait tous, Michel Loris Merlikoff l'a rappelé tout à l'heure, on sait tous que la vraie échéance, elle aura lieu en 2020, quand le SIHH de Genève et Basel World vont faire coïncider leurs dates. C'est là qu'il y aura véritablement l'enjeu de savoir si les salons arrivent à se réinventer, s'ils arrivent à trouver, à rendre des comptes à leurs exposants. Cette année 2019, c'est pour moi vraiment une année de transition, mais où Michel Loris Merlikoff a réussi, à mon sens, à faire patienter les marques d'ici l'année prochaine.
Donc c'est en 2020 que ce sera le test de vérité. Malgré tout, quelques changements. On parle de plus d'ouverture aux créateurs indépendants, aux jeunes marques, aussi aux journalistes, aux influenceurs. Est-ce que ça va dans la bonne direction ?
Oui, alors je dirais que le résultat, il est plus vert, il y a plus d'arbres, il est plus accueillant pour les médias, on a plus de place, il est plus aéré, il y a moins d'exposants, il est plus aventureux, il y a ce Watch Incubator qui accueille des start-up, mais c'est pour moi des modifications à ce stade purement esthétiques, et puis l'enjeu, encore une fois, sera uniquement en 2020.
Michel Janot, vous partagez cette analyse. Ce à quoi on assiste en 2019, pour cette 102e édition, c'est un peu des changements cosmétiques, de manière concrète.
Oui, je crois que c'est clairement cosmétique, mais c'était des changements indispensables, parce que si on n'avait même pas eu ça, on aurait pu craindre vraiment le pire. Donc, on a fait de la cosmétique en très peu de temps, quand même, parce qu'on ne change pas un salon comme ça, et le nouveau directeur le dit bien, on ne change pas un salon comme ça en 9 mois. Donc, il y a quand même une inertie invraisemblable. Donc, il faut bouger les marques, il faut bouger... Il faut aussi comprendre que les marques n'ont aucune idée de ce qu'elles veulent. C'est ça, le problème. Aujourd'hui, si tout le monde avait une idée très précise, on le ferait ou on ne le ferait pas. Aujourd'hui, vous discutez avec 5 exposants, ils vous donnent chacun des demi-réponses différentes sur ce qu'ils aimeraient voir advenir. Donc c'est très très difficile, et c'est peut-être ça la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on veut encore un salon ? Est-ce que c'est encore utile ?
Ben voilà, toute la question est posée. Valère Gogna, un salon aujourd'hui, ça sert à quoi ? On parle beaucoup de digital, de communication, de peut-être moins de commercial.
Oui, mais je crois que Thierry Stern, le patron de Patek Philippe, a parfaitement répondu tout à l'heure lors de la conférence de presse. Il a dit, nous, notre job, c'est de faire des belles montres et de les vendre. On le fait. Vous, votre job, c'est d'organiser un salon et de le faire fructifier. MCH Group est coté en bourse. C'est leur job de faire des salons qui marchent avec Art Basel. Ils le font très bien. C'est leur métier. En fin de compte, c'est à eux de répondre à la question des marques, de se demander qu'est-ce qu'on veut. C'est à eux de leur dire, voilà ce dont vous avez besoin aujourd'hui pour faire plus d'affaires et puis aller plus directement vers vos clients. C'est à eux de répondre, c'est pas aux marques.
En tout cas, on a des éléments de réponse si on essaye d'analyser le Swatch Group qui quitte Basel World, certes, mais comme on l'a entendu, qui crée son propre salon, ça montre qu'un emplacement physique localisé où on peut se rencontrer, ça reste utile.
Moi, je crois que ça reste indispensable malgré toute la digitalisation, le numérique, etc. C'est quand même assez surprenant de voir que la marque, le groupe, le gros groupe qui quitte Bâle, organise à peu près son petit Bâle 2 mois après. C'est quand même, ça pose vraiment des questions. Alors, soit c'est vraiment pas utile et on n'a pas besoin de faire ça, soit ça a quand même une certaine utilité et alors on reste ou on reste pas, on le fait dans son coin. Moi, je crois pas à la possibilité que chacun fasse dans son coin son petit salon, son événement, etc. On peut pas multiplier les événements comme ça, on peut pas faire venir 30 fois les détails sur 30 événements différents pour les 30 principales marques, c'est absolument impossible. Donc soit on fait un salon, soit on n'en fait plus du tout, et puis on se concentre sur le digital, mais ça c'est vraiment ce que je pense.
En tout cas, Basel World, on a l'impression, Valère Gogna, qu'il donne toujours le ton, il met tout le monde un peu au même diapason en termes de temporalité de communication, on a l'impression que les absents en profitent aussi pour communiquer, donc il y a quand même quelque chose qui se passe, qu'on le veuille ou non.
Oui, tout à fait. Il y a un moment horloger mondial qui, qu'on le veuille ou non, a lieu à cette fin mars. Je pense que c'est une histoire d'habitude. Je pense aussi que c'est une affaire de suivisme. Hein. Tous les médias du monde entier consacrent du temps, de l'antenne. Le meilleur exemple est en ce moment. Tout le monde consacre du temps à parler de la montre. Donc forcément, il y a beaucoup de marques qui veulent s'y glisser. Après, moi aussi, comme Michel Janot, je pense que l'industrie a besoin de ce rendez-vous. Et encore une fois, le fait que les deux événements phares cessent leur guerre d'ego qui avait lieu dans les années 90 et ce soit enfin assis autour de la table pour uniformiser pour faire coïncider leurs dates, disons, à mon sens, c'est le meilleur signal que l'industrie a compris qu'elle avait besoin d'un grand moment horloger où le monde entre en caisse de résonance avec l'industrie suisse.
Parlons maintenant de cette édition de Baselworld. Michel Janot, 500 exposants, c'est bien moins qu'il fut encore un temps très proche, bien moins qu'il y a 2 ans. Est-ce que malgré tout, alors on fait tout un foin, les médias du monde entier, Valère le rappelle, viennent ici, est-ce que c'est encore utile de venir ici à Baselworld? Ça représente encore quelque chose pour l'industrie horlogère, concrètement pour les emplois qu'il y a dans notre région?
Moi, je pense que ça reste utile, effectivement. C'est vrai que 500 exposants, ça reste un chiffre extrêmement décevant. La direction, d'ailleurs, le reconnaît. Mais c'est vrai aussi que ce rendez-vous, ça stimule toute une industrie. On le constate, tout le monde se focalise aujourd'hui sur ce salon. On en parle, etc. Parce que le danger, quand même, c'est que l'industrie horlogère suisse est une micro-industrie. J'aime bien toujours dire que l'industrie automobile en 2 jours fait le même chiffre d'affaires que l'industrie suisse en 1 année. Donc voilà, on doit absolument, les marques doivent se regrouper. C'est pas possible de chacun aller de son côté.
Que dire de l'état d'esprit de cette nouvelle direction, de cette nouvelle organisation? Est-ce qu'on peut dire, Valère Gognac, qu'il y a quand même un peu moins d'arrogance, ou osons le mot, plus de convivialité? On a envie de peut-être davantage ouvrir. Est-ce que vous le ressentez ici?
Ah ouais, parfaitement. Un exemple concret, moi j'ai le souvenir personnel que la direction de la précédente édition du Salon refusait simplement de répondre à certaines de mes questions, a affiché une fin de non-retour, là où Michel Loris Merlikov, croisé cet après-midi dans le Salon, prend 5 minutes pour tout le monde, serre les mains, répond aux questions les plus embarrassantes. Il a eu ces mots lors de la conférence de presse. L'année dernière, la conférence de presse annuelle d'ouverture n'avait pas laissé de place aux questions des journalistes. Cette année, il a commencé la conférence en disant « J'ai voulu une conférence ouverte au débat, les questions ont pu être posées. » Je trouve que c'est un signal concret de cette ouverture. Après, je pense qu'il a une longue expérience dans l'événementiel. Hein. On ne va pas refaire son CV ici, mais on sait qu'il a fait ses preuves. Et surtout, je crois que le message principal, c'est vous avez parlé et nous vous avons entendu. C'est ça qui va marteler tous ces prochains jours à tous les gens qu'il va rencontrer, médias, clients finaux, exposants. Et je crois que c'est aussi un signe de son ouverture.
Un autre signe dont on ignore exactement la teneur, c'est peut-être le prix du mètre carré. On sait que c'est très cher de venir à Baselworld pour installer son stand. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. Alors selon le journal de la Fondation de Haute Horlogerie, c'est fait. Il y a de nouveaux contrats, de nouveaux tarifs de mètre carré pour les exposants. Est-ce que pour vous, c'est une nécessité ou c'est quand même le risque de perdre un peu en prestige?
Non, la question a été évoquée tout à l'heure en conférence de presse et effectivement c'est probablement un des problèmes centraux de cette manifestation. C'est trop cher, c'était devenu trop cher. Beaucoup de marques ne s'y retrouvaient pas. Celles qui avaient les moyens trouvaient quand même qu'elles payaient très cher. Celles qui avaient moins de moyens trouvaient que c'était... Bon bref, tout le monde trouvait que c'était trop cher. Donc ils sont en train de rediscuter, de voir. Ils ont probablement baissé déjà les prix d'après ce qu'on a entendu cette année. Ils sont en train de revoir un tout nouveau modèle de pricing pour l'an prochain. Ça paraît indispensable parce qu'effectivement, c'est là que le bât blesse. Mais cela dit, il y a pas mal de marques qui sont parties et qui ont fait croire que c'était sous le coup d'une stratégie de communication et c'est que simplement, elles n'avaient plus les moyens de venir à Bâle. Donc, c'est une vraie question.
Si les prix sont revus à la baisse, Valère Gognac, est-ce qu'on peut imaginer qu'en 2020, année cruciale, vous l'avez dit, d'entrée de jeu, il y a des marques qui vont revenir, hein, des boîtes horlogères de notre région qu'on pourrait revoir? Il faudra leur demander, hein, mais est-ce que vous pensez que c'est vraiment important justement de baisser les prix et d'être plus accessible?
Oui, le prix du mètre carré, hein, bien sûr, mais aussi le prix des hôtels, le prix des restaurants. MCH Group, c'est donc un groupe coté en bourse, c'est le propriétaire de Baselworld. Ils doivent rendre des comptes à leurs actionnaires. Et pendant longtemps, Baselworld, ça a été, si je peux me permettre l'expression, une vache à lait qui leur fournissait énormément de cash. Et ils avaient l'impression qu'ils pouvaient traire cette manifestation comme bon leur semblait. Aujourd'hui, ils ont réalisé que ce n'était plus le cas. Et s'ils veulent faire survivre l'événement, ils doivent revoir les tarifs. Après, est-ce que ça va faire revenir les plus petits acteurs qui sont partis? Comme disait Michel Janot, certains disent qu'ils ont une stratégie. Moi, je pense aussi que c'est beaucoup pour des raisons financières. Pas dans le cas du Swatch Group. Je ne pense pas que c'est uniquement une histoire d'argent. Je pense que le problème est plus complexe avec le Swatch Group et ses 18 marques.
Michel Loris Melikov avance que la joaillerie doit retrouver ses lettres de noblesse. C'est important, c'est vraiment un pilier de ce salon. Est-ce que le salut peut passer par là? Il invoque aussi le retour de sous-traitants qui avaient complètement quitté la barre, qui reviennent. Là, c'est aussi des signes encourageants.
Oui, c'est, disons qu'on corrige les erreurs passées. Il y a une dizaine d'années, c'était tout à l'horlogerie. On faisait les grandes halles pour l'horlogerie, on déroulait le tapis rouge pour les horlogers et on délaissait clairement les sous-traitants, les joailliers. Aujourd'hui, je crois que la direction de Bâle a compris que ça avait été une erreur stratégique et ce salon doit effectivement essayer de regrouper bien davantage que les horlogers.
Dernier mot, la conjoncture plutôt favorable, hein. Les chiffres ont été présentés, encore rappelés par Jean-Daniel Page de la Fédération Horlogère. Est-ce que c'est peut-être le filet de sécurité qui fait que Baselworld peut encore se donner une année pour tenter de faire mieux?
Oui, je pense que... Mais je pense que les deux choses sont quand même pas tout à fait liées. Je pense vraiment que Baselworld a son chemin à faire indépendamment de la conjoncture actuelle. Et puis, quelle que soit l'évolution des exportations horlogères, à mon sens, ça n'aura pas un impact direct sur le salon à court terme. Il a ses devoirs à faire, il est en train de les faire indépendamment de l'évolution à court terme des exportations horlogères.
Valère Cognat, merci beaucoup d'être venu dans Place Publique, on le rappelle. Vous êtes journaliste spécialisé dans les questions qui touchent l'industrie horlogère pour le journal Le Temps. Merci d'avoir été avec nous. On termine avec vous, Michel Janot. Dernière question. Cette nouvelle configuration permet à des marques émergentes de tirer profit de l'espace qui se libère. Est-ce que vous l'avez observé? Est-ce que c'est pour vous intéressant à observer?
Oui, je crois que c'est intéressant. Ça permet aujourd'hui, les espaces laissés libres permettent à de plus petites marques, notamment à travers l'incubateur qui a été organisé et proposé aux start-up en réalité, de venir à Bâle, donc de toucher des journalistes, des détaillants qu'elles n'auraient absolument pas la possibilité de toucher autrement. Et je pense que ça, c'est un signe positif.
Michel Janot, merci infiniment de nous avoir rejoints également. On le rappelle, vous êtes rédacteur en chef au bureau d'information de la presse horlogère et on a plaisir à vous retrouver pour nous parler de ces questions. On vous souhaite un excellent salon.
Merci.
Et il est temps justement de passer la parole à deux exposants de Baselworld qui nous ont rejoints. Tout d'abord, Yann Edox, membre du conseil d'administration du groupe Valka, qui est propriétaire de la marque Doxa, une marque qui a été fondée au Locle, mais qui est basée aujourd'hui à Bienne, une maison ancienne, hein, fondée en 1889. Et vous fêtez Doxa, la marque, cette année, les 130 ans de cette marque. Et vous profitez de Baselworld pour présenter, bien sûr, des séries limitées, des montres emblématiques. On aura peut-être l'occasion d'en toucher un mot. Et vous êtes là depuis 60 ans. Yann Edox, bonjour, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Merci d'être avec nous. À mes côtés également, Johnny Ingucho, bonsoir.
Bonsoir.
Vous dirigez l'entreprise Unique, basée à Delémont, une entreprise toute fraîche à Baselworld qui fait sa deuxième édition. On en a parlé déjà sur les radios de l'Arc Jurassien. On va peut-être commencer avec vous, Yann Edox, exposant, on peut dire, de la première heure. Hein, ça fait 60 ans que vous êtes par là. À quoi ça vous sert encore aujourd'hui d'être exposant à Baselworld, surtout quand un stand peut coûter quand même très cher?
Oui, alors pour nous, c'est encore évidemment aussi par le passé, et puis on prend un peu aussi des habitudes, même si on s'adapte aussi par rapport à l'actualité des marchés. Mais pour nous, c'était toujours un must d'être là, surtout quand même, on n'a pas longtemps réfléchi pour nos 130 ans d'être là, parce que là, on a vraiment, comme on le dit, des pièces uniques à présenter. Mais en même temps, pour nous, dans la grandeur de notre taille, de la marque, même si elle est très connue aussi dans un certain cercle de clients finaux, surtout pour les montres plongées, c'est quand même encore une possibilité de rencontrer encore l'industrie et puis aussi quand même encore rencontrer des nouveaux marchés qui est quand même encore important pour nous.
Mais vous en avez vu passer des éditions, vous avez vu les creux, on est en plein dedans, vous avez vu les variations, comment vous les analysez et est-ce que ça prétérite aussi vos affaires?
Oui, alors pour le moment c'est plus difficile à planifier le futur, mais en même temps, en ayant fidèle à Baselworld, de voir aussi ce qui se passe, ça veut dire qu'on n'est pas comme une marque qui veut courir loin. On a vu que Baselworld, ils ont fait les premiers beaux pas, à nos avis. Mais en même temps, on est quand même très intéressés. Qu'est-ce qu'ils vont nous présenter pour les années à suivre?
Alors dites-nous, c'est quoi les bons pas? Que doit faire ou qu'a déjà fait Baselworld à votre égard, enfin dans votre direction?
Bon, notre avis, je ne veux pas parler des grandes marques ou les petites marques, ça n'existe pas pour nous. Mais il y a quand même une différence entre les grands groupes et puis, comme on le dit, des marques comme nous, indépendantes. Et puis là, on a senti qu'il y avait une approche plus chaleureuse, plus ouverte et puis plus flexible.
Ça se traduit aussi dans les prix du mètre carré. On en parlait tout à l'heure avec nos confrères journalistes. Est-ce que là aussi, il y a un geste qui est fait?
Oui, clair et nettement. Alors, oui.
Bon, voilà qui est clair. Johnny Ngucho, pour vous, quel est l'intérêt d'aller ici pour communiquer, pour exister? On se souvient de l'investissement que vous aviez fait l'année dernière. Un demi-million, c'est quand même pas rien quand on est une marque émergente. En quoi c'est nécessaire à l'heure du tout digital, où finalement on peut approcher son client via les réseaux sociaux de manière très directe et peut-être meilleur marché?
Alors disons que l'année dernière, pour nous, a été très porteuse, donc... Effectivement, vous l'avez dit très justement, nous étions là depuis 5 mois uniquement en 2018. 40 pays nous ont approchés après 5 mois d'existence, mais on n'était pas prêt à 100% donc pour assumer ce qui nous arrivait. Donc, on était l'effet surprise finalement de la foire. Et puis, il nous a fallu une année complète pour adapter notre produit. En ce qui concerne le tout digital. On va dire que la montre traditionnelle garde une grande part du marché. On a un produit unique.
Mais pour le communiquer, pour rendre attentif vos clients que vous existez, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'avoir un stand qui pour certains est hors de prix ou très cher? En quoi c'est utile d'être ici à Baselworld? C'est le prestige ou c'est vraiment ces journalistes du monde entier qui viennent ou ces détaillants? Qui est-ce que vous avez besoin de rencontrer sur votre stand? Alors,
l'année dernière, comme je l'ai dit, elle était très porteuse en termes de visibilité. Donc cette année notre carnet de commandes s'est bien étoffé. On a fait beaucoup de contacts. Nous n'avons pas pu, comme je vous l'ai dit aussi, par le fait que nous n'étions pas prêts à 100%. Et donc cette année, on va dire, c'est l'année d'aboutissement pour notre marque, de pouvoir être là. Donc c'est une chance, effectivement, vous l'avez dit. Nous avons investi beaucoup d'argent. En ce qui nous concerne, hein, bien évidemment, des groupes prestigieux sont toujours là, fidèles. Et donc, c'est un défi pour nous. Et tous les matins, on se lève pour relever ce défi.
Apparemment, ça marche puisque vous revenez. Yann Edox, paradoxalement, est-ce que pour vous, le fait qu'il y ait certains vides, certains absents, vous met un peu plus de lumière sur vous en tant que marque indépendante?
Ah, moi, je pense, surtout maintenant aussi, déjà aujourd'hui, avec la journée de presse, on a pu dire que cet après-midi, on a pu déjà rencontrer vraiment les chers, journalistes ou du trade qu'on n'avait jamais avant, ça veut dire. Et puis aussi pendant la foire, un accès, j'espère, de nouveau, je ne veux pas mentionner le plus petit, mais comme aussi nos chers collègues, oui, peut-être on a plus de lumière, sur nos marques, et puis au moins on l'espère, dans une année on saura plus.
Et du coup, au niveau des affaires, est-ce que c'est rentable d'investir à Baselworld avec ces contacts que vous faites? Maintenant que vous êtes plus visible, maintenant que vous vous sentez peut-être mieux accueilli, est-ce que vous avez plus d'attentes en termes d'affaires?
Oui, alors d'une compte, quand même avec Doxa, on a des marchés de clé, mais il y a aussi encore des marchés à aboutir. Alors ça, c'est une chose. Et puis de l'autre côté, c'est quand même les planifications, ça se passe sur une année. Et puis c'est quand même une possibilité de rencontrer l'industrie dans tous les domaines. Avant tout, évidemment, les clients. Mais c'est quand même une plateforme pour nous encore qui fonctionne bien. Mais en même temps, on est vraiment très intéressés comme on dit, par la suite de Baselworld. On espère évidemment pas que ça diminue encore plus, surtout aussi avec les changements maintenant avec les dates. À notre avis, de porter ça sur fin avril, ensemble avec les CHH. D'un côté, positif, on entend des clients qui vont de nouveau venir, en plus, parce que pendant une semaine, ils peuvent faire autant SCHH et puis Baselworld. Alors, on est plein d'espoir, mais en même temps conscient qu'il faut avoir des yeux ouverts.
Alors, vous êtes nouvellement arrivé à Unique, mais néanmoins, Johnny Nguccio, est-ce que vous estimez que déjà cette année, vous devez faire le plein ou bien vous attendez 2020 et vous vous êtes placé pour vivre les nouvelles grandes heures de Baselworld? Vous avez déjà des attentes très concrètes maintenant?
Alors nous, en tant que petite entreprise, on va dire start-up, si je peux me permettre, dans ce milieu, on va dire très très concurrentiel qu'est le domaine horloger, il est vrai que pour nous, chaque jour... est important. Donc on ne néglige aucun client, on ne néglige aucun marché. Il est vrai qu'il y a des marchés qui sont porteurs, d'autres qui le sont moins. Nous avons un produit, comme son nom l'indique, qui est unique. Et dès lors, l'idée, c'est de proposer ce produit unique à des marchés de manière à ce qu'on puisse offrir au client final aussi quelque chose de différent.
Maintenant, on ne vient pas à Baselworld avec les mains vides, on vient avec des spécificités, avec des produits vedettes. On a envie de mettre ça en avant, évidemment, pour attirer l'attention. Comment ça se prépare un salon avec, vous venez avec quel atout pour justement attirer la lumière, attirer la presse du monde entier dans cet univers ultra concurrentiel et presque saturé, on pourrait dire?
Oui, ça veut dire ça commence déjà bien avant, dans l'année 2018 par rapport à cette édition-là. D'une côté, on a un feedback des marchés. D'une côté, on a, nos envies d'avancer. Surtout, la priorité pour nous, c'est toujours encore le produit. On n'aura jamais les moyens marketing de pousser un produit par le marketing. Et puis, par exemple, cette année-là, pour les 130 ans d'OXA, c'est la première fois qu'on lance une série en or, sub, limitée à 13 pièces.
Donc, c'est cette fameuse montre de plongée. C'est comme ça que vous êtes fait connaître en partie. Une montre vraiment typique pour les plongeurs. Et vous en sortez une édition, on va dire, de luxe, pour des plongées de luxe.
Oui, alors ça veut dire, on l'a présenté, cette réédition Manon en or, on l'a présenté dans l'année 1966, et puis elle était lancée dans l'année 1067, et puis après une autre édition en 1069. Alors là, on parle vraiment des années, et puis c'est quand même beau de voir que l'industrie, certaines connaissent encore, et puis pour nous, on connaît notre marché, on connaît notre niche, on connaît, comment on dit, le marché des plongeurs, et puis là, on essaye d'élargir autant qu'on peut, et puis là, on a lancé maintenant cette série en or, très limitée, puis en même temps une série en acier, aussi limitée à 130 pièces pour l'anniversaire.
Yann Edox, vous nous rappelez le nombre d'emplois dont il est question dans votre entreprise à Bienne?
Oui, alors le nombre d'employés qu'on a aujourd'hui, c'est 22 employés, ouais.
Et 22 employés à Bienne qui dépendent un peu de la réussite de ce salon, on peut le dire?
Oui, ça veut dire qu'il dépend de réussite pour Doxa, autant qu'on est membre du Valka Group. Il y a aussi une autre entreprise qui est enceinte du groupe, c'est Valka, et ça, là, on ne peut pas trop dire parce que c'est le secret d'industrie. Là, on est, comme on le dit, un des producteurs private label depuis 43 ans aussi. Et puis là, en effet, évidemment, on a des possibilités de pouvoir employer aussi des synergies.
Johnny Nguccio, dernière question à vous. Vous venez pas les mains vides non plus. Vous devez vous renouveler après l'effet de surprise, après une première édition. Vous devez remettre une couche pour essayer de marquer les esprits. En deux mots, vous avez misé sur quoi pour impressionner la galerie?
Alors on va dire, effectivement, la galerie, si je peux me permettre, elle est toujours impressionnée, en tout cas après ce premier jour où la presse est venue nous rendre visite. Il y a encore des gens qui n'ont pas, on va dire, qui n'ont pas encore compris ce qu'on peut amener, c'est-à-dire nous sommes, à ma connaissance, la seule marque qui a développé une carrure en verre monocoque. Donc il est vrai que nos confrères, nos concurrents, certains sont spécialisés dans comme l'a dit mon confrère, dans les mondes de plongée, d'autres dans le mouvement, d'autres dans différentes choses. Et nous, alors, on est là, on essaie de se positionner avec nos montres en verre et qui, semble-t-il, en tout cas, des retours font un très très grand effet auprès des clients.
Yann Edox, Johnny Nguccio, Yann Edox, membre du conseil d'administration du groupe Valka, propriétaire de la marque Doxa, basée à Bienne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Johnny Nguccio, directeur de l'entreprise Unique, jeune entreprise basée à Delémont. On vous souhaite bien sûr à tous les deux un excellent salon et on vous remercie encore d'être passé dans l'émission Place Publique pour répondre à nos questions et nous faire part de vos attentes et des raisons pour lesquelles vous êtes ici à la foire horlogère.
Place publique.